Le journal Josette Sédoux, bonsoir.
Bonsoir, la décision est tombée, c'est non. Les élèves du secondaire 1 de Belpraon, Corcelles et Crémines ne pourront plus être scolarisés à Moutiers après le transfert de la ville dans le Jura. Ils iront à Grandval, on entendra les raisons invoquées par le canton de Berne. À Bienne, le quartier de Beaumont va passer en zone 30 et aussi perdre 37 places de stationnement. On entendra le chef du projet relativiser cette perte de places de parc. Et puis un nouveau sport fait son entrée dans la région, ça s'appelle le bandit, et c'est l'ancêtre du hockey sur glace sur une surface plus grande. La région Grand Chasseral a désormais une équipe, on en parlera avec l'entraîneur. Et puis météo, demain encore du brouillard en plaine allant jusqu'à 800 mètres, voire 1000 mètres, et au-dessus un soleil assez généreux. La scolarisation de tous les élèves du secondaire 1 de Belpraon, Corcelles et Crémines se fera à Grandval. C'est ce qu'indique le canton de Berne dans un communiqué publié cet après-midi. Le conseil exécutif rejette la demande de ces trois communes de continuer à scolariser une partie de leurs élèves à Moutiers après le départ de la ville dans le canton du Jura. Les autorités bernoises justifient ce choix par des critères géographiques et d'accessibilité, quitte à déclencher une réaction forte de la part des communes du Cornet, voire même des recours. Pierre Lincheneck, directeur de la santé, des affaires sociales et de l'intégration du canton de Berne.
Une telle décision va générer, quelle que soit la décision qu'on aurait prise, va générer certaines insatisfactions. Elles font partie, je dirais, de ce genre de décision, mais cette décision est vraiment basée sur des éléments factuels, la proximité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Perfit a une autre possibilité que les autres communes, mais j'entends de faire passer des élèves d'une commune devant une école secondaire bernoise pour les amener dans une école extra-cantonale ne serait pas quelque chose de judicieux. Et pour cette décision que nous avons prise, ben c'est le canton qui est souverain.
Bon, en l'occurrence, les élèves de Belpraon ne passeraient pas devant l'école de Grandval pour aller à l'école secondaire de Moutiers.
Oui, mais je dirais que l'accessibilité de l'école de Grandval pour les écoliers de Belpraon, elle est tout aussi bonne, voire même un peu plus courte que l'accessibilité à l'école secondaire de Moutiers. Par contre, pour les élèves de Perfit, ben c'est sûr que eux, ce serait l'effet inverse, sans compter en plus que pour Perfit, ils ont même des possibilités de se déplacer en dehors des routes utilisées par la circulation traditionnelle.
Et du côté de Belpraon, on conteste ce choix. Pour Aude Sauvin, conseillère communale en charge du dicastère des écoles, cette annonce va à l'encontre de la volonté des habitants du village.
Non, on ne respecte pas la volonté des habitants de Belpraon qui se sont prononcés clairement à deux reprises en faveur de la scolarisation à Moutiers.
Qu'est-ce que vous comptez faire finalement contre cette décision ?
Dans un premier temps, ce que nous souhaitons, c'est obtenir une décision formelle où figurent les voies de recours par rapport à cette décision, ce qui n'est pas le cas actuellement. On estime en effet qu'ayant introduit une demande formelle, nous devrions recevoir une décision formelle. Et puis ensuite, au niveau du Conseil, nous allons en discuter, mais il est clair que nous pourrions envisager de faire recours contre une telle décision, si cela est possible à l'avenir, et puis d'essayer ainsi de faire respecter la décision de nos citoyens.
Un dossier réalisé par Régis Meria et Anthony Montandon. Contacté pour une réaction, la maire de Crémines, Carole Ristori, n'a pas souhaité commenter la nouvelle dans l'immédiat. L'élu indique vouloir tout d'abord discuter de la suite du dossier lors du prochain conseil communal qui aura lieu lundi. Le village de Cour va aussi s'équiper d'un chauffage à distance. Le projet avance, la chaufferie devrait raccorder les bâtiments communaux, l'école et la halle de gym. Le projet est initié par la bourgeoisie et la commune, donc ne dégagera aucun bénéfice. Les premiers travaux pour installer la centrale sur le site de la zone industrielle de Chaluet vont démarrer au début 2025. 80 clients se sont déjà annoncés pour être également raccordés au réseau. Danick Gerber, membre du conseil d'administration de la société Énergie Cour, les a rencontrés pour les convaincre de s'y raccorder. Il nous explique ce qui a décidé les gens à s'y affilier.
C'est vrai qu'une réduction de 37 places est prévue dans le quartier. Selon nous, c'est un impact relativement faible par rapport à l'offre publique et privée.
Petit souci technique, on va retrouver le son tout de suite qui va arriver concernant le chauffage à distance dans la localité de Cour qui devrait arriver dans les prochaines secondes. On allait entendre donc un des membres du conseil d'administration de la société Énergie Cour, Danick Gerber, qui nous explique ce qui a décidé les gens à se raccorder à ce réseau de chauffage à distance.
Je dirais que c'est le côté écologique qui touche beaucoup de personnes, c'est de se dire que ça fait sens d'utiliser le combustible du bois par rapport à qu'il est disponible ici.
Et puis, est-ce que c'est plus cher que le mazout finalement? Et on va dire que c'est vraiment le côté écologique qu'on paye pour ça.
Oui, je pense qu'il ne faut pas juste garder l'aspect prix. Ce n'est pas qu'on est beaucoup moins cher parce que le bois provient d'ici. Ces infrastructures, c'est assez complexe. Hein. Donc, le coût revient plus ou moins un peu au même. Après, c'est clair, si vous calculez sur 25 ans, le bois, il est compétitif. Mais si vous prenez juste sur une année ou deux, suivant le cours du mazout, hein, je n'ai pas gardé maintenant les chiffres du jour, vous serez probablement moins cher avec le mazout. Mais si on regarde à long terme, avec le bois, on est plus sûr. Il y a aussi un autre aspect, c'est que le mazout, c'est très volatile. Hein, ça peut, d'une année à l'autre, le prix peut monter. Et puis là, vous n'avez pas le choix que de suivre. Avec le bois, on a remarqué que sur ces dernières années, c'est très stable au niveau des prix.
Le projet total coûtera 7 millions de francs. L'implication financière de la commune n'est pas encore définie. Elle sera présentée en temps voulu aux citoyens de Cours. Les premiers clients pourront se chauffer d'ici 2026. À Bienne, le quartier de Beaumont va passer en zone 30 et perdre 37 places de stationnement. Hier soir, le conseil municipal a approuvé le projet et débloqué un crédit de 100 000 francs. Conformément à la stratégie globale de mobilité, si cette mesure permet d'améliorer la sécurité routière et de favoriser les déplacements piétons et cyclistes, elle prive par contre les automobilistes de nombreuses places de parc. Les détails du chef de projet au secteur de la circulation de la ville de Bienne, David Lapeyre.
C'est vrai qu'une réduction de 37 places est prévue dans le quartier. Selon nous, c'est un impact relativement faible par rapport à l'offre publique et privée existante. Ça représente environ une diminution de 8% de l'offre en stationnement public et 2% si on prend en compte l'offre en stationnement public et privé. À savoir également qu'un visiteur externe, s'il ne devait pas y avoir suffisamment de places de parc, il a aussi toujours la possibilité de se parquer au parking de la vieille ville, le parking Altstadt. Et avec le ticket de parking, on a également le billet de transport public gratuit.
David Lapeyre répondait aux questions de Céline Roduit. Le conseil municipal biennois prévoit d'introduire des zones 30 dans tous les quartiers d'habitation de la ville. Mais il pourrait être freiné par une motion de l'UDC bernoise. Désormais approuvée par l'exécutif, le texte demande que la limite des 50 km/h soit maintenue sur les routes cantonales. Cette mesure toucherait notamment un tronçon du quartier de Bougeant. Le moratoire sera débattu lors de la session d'hiver du Grand Conseil. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la lumière, l'occasion pour la police cantonale bernoise de rappeler dans un communiqué à quel point c'est important d'être visible sur les routes, surtout lorsqu'on se déplace à pied ou à vélo pendant la période hivernale. Les précisions de Céline Roduit.
Journée de la lumière, ensemble pour la visibilité. Voici le slogan de la police cantonale bernoise pour sensibiliser les piétons et les cyclistes à l'importance d'être bien équipés sur les routes. Il faut dire que selon le Bureau de prévention des accidents, le risque d'accident de la route est presque deux fois plus élevé dans l'obscurité qu'en journée. Pour y remédier, la police rappelle quelques conseils. Les piétonnes et piétons doivent porter des vêtements clairs avec des éléments réfléchissant. Quant aux cyclistes, en plus de l'éclairage obligatoire, elle les encourage à porter un gilet fluorescent, un casque de couleur vive, des réflecteurs de rayons ou des pneus réfléchissants sur les côtés. Depuis quelques semaines, les forces de l'ordre distribuent également des gilets fluorescents aux enfants des classes de 6 et 7H du canton.
La police cantonale prévient qu'elle multipliera les contrôles des éclairages sur les vélos, une action de prévention-répression qui va s'étaler sur plusieurs semaines. Un méga camp scout réunissant les jeunes du canton de Berne et du Jura du nom de Jubaka, de Jura et Berne au camp. Les organisateurs ont présenté leur projet à la presse ce matin. Plusieurs scouts jurassiens se sont lancés dans l'organisation de ce camp qui se tiendra du 21 juillet au 2 août dans les pâturages de Souls. Près de 400 participants du Jura bernois, du Jura et de Bienne, mais peut-être aussi d'ailleurs, devraient être au rendez-vous pour cette première. D'habitude, l'association de scoutisme jurassien met sur pied un week-end qui fait office de camp d'été. Mais pour l'an prochain, le comité d'organisation veut voir les choses en grand. Sa co-responsable Charline Unterner nous parle des objectifs de cette rencontre.
Il y a tout d'abord l'idée d'apporter une cohésion. Donc on a 12 groupes pour la région du Jura-Jura-Bernois. Donc l'idée, c'est effectivement de faire quelque chose ensemble, d'avoir une synergie plus forte, une collaboration aussi plus développée. Il y a l'idée de promouvoir le scoutisme, de s'approcher et de s'entourer d'associations de jeunesse aussi pour avoir une synergie au moment du camp et dans notre planification. Il y a l'idée aussi d'avoir un programme qui est ouvert à toutes les tranches d'âge, parce qu'effectivement, ça commence à 7 ans, ça finit à pas d'âge finalement, et puis que chacune de ces tranches d'âge est quelque chose à vivre également en tant que bénévole, qu'on ait aussi un vécu et pas seulement finalement du travail à faire entre guillemets durant le camp. Et notre dernier objectif, qui est un pilier assez fort, c'est tout ce qui est la durabilité, que finalement chacune des entités, chacune des équipes ait un pied dans cette durabilité, qu'on arrive à organiser ça en respectant les limites planétaires, mais également sans dépasser le seuil social.
Et pour répondre à ces objectifs, les enfants et adolescents auront un programme riche que nous détaille le co-responsable du camp, Quentin Gisler.
On va avoir une première partie qui va concerner des constructions. Ça veut dire qu'ils construisent en bois, avec des outils, l'installation qui va leur permettre de vivre. On parle d'abri, on parle de cuisine sur le feu, on parle de tente. Certains vont peut-être faire une tour, d'autres un élément décoratif. Donc vraiment, on les laisse s'installer en fait, mais ils construisent eux-mêmes le campement dans lequel ils vont vivre quand même 2 semaines. Une fois les constructions terminées, c'est le moment de partir en excursion. On peut partir en groupe d'adolescents, encadrés par des adultes, mais les adultes ne sont pas forcément présents tout au long de la randonnée. On a des nuitées qui peuvent se faire à la Belle Étoile, sur la paille, dans des granges ou également dans des cabanes. Et au cours de ces excursions, on peut aussi vivre certaines activités, peut-être se déplacer en vieille ville de Delémont, à Saint-Ursanne. Si je viens sur la deuxième semaine, on aura toute une foule d'activités qui peuvent aller d'une activité éducative, de sensibilisation. Ça peut être aussi quelque chose de technique ou ça peut être aussi du sport de camp sur une demi-journée.
Un dossier réalisé par Loïc Georgi. Plus de 37 000 cybermenaces ont été annoncées au premier semestre en Suisse. Un chiffre qui a doublé en une année. L'Office fédéral de la cybersécurité a tiré aujourd'hui un bilan de ses activités depuis janvier. Les signalements de la population sont en forte hausse, surtout pour des arnaques téléphoniques avec de faux policiers ou de faux supports informatiques. En 2025, l'Office fédéral de la cybersécurité sera particulièrement mobilisé pour 3 événements, l'Eurovision, le Forum de Davos et le de foot féminin. Le directeur de l'Office, Florian Schulz, dévoile les craintes qui entourent ces manifestations.
Nous attendons que peut-être il y a des activistes qui veulent attaquer un événement comme le Eurovision Song Contest pour poser un message politique. Par exemple, si on a le VEF, il y a des intérêts peut-être pour s'informer, pour aussi influencer quelques sessions. On ne sait pas là. On travaille avec le service de renseignement, avec la police, avec les autres partenaires. Dans les attaques, on a un rôle pour les arrêter aussi, pour aider les entreprises qui sont les victimes ou les événements qui sont les victimes. Nous avons les experts techniques qui travaillent avec eux. Mais au niveau de planification, au niveau de préparation, on a aussi le rôle pour coordonner tout.
La population et les entreprises peuvent signaler tous les cyberincidents sur le site internet de l'Office fédéral de la cybersécurité.
18h13 sur RJB.
Sport. Le bandy tient sa première équipe dans notre région. Ce sport est l'ancêtre du hockey sur glace. Il se joue toutefois sur une surface beaucoup plus grande et ressemble de ce fait à du hockey sur gazon, donc avec des patins à glace aux pieds. Depuis un mois, la région Grand Chasseral possède sa propre équipe qui s'entraîne notamment à Neuchâtel dans une patinoire traditionnelle. Il n'existe en effet que quelques surfaces de jeu de taille officielle pour le bandy en Suisse. Et elles ne sont pas dans notre région. C'est l'entraîneur de l'équipe de Suisse féminine, Frédéric Page, qui tient les rênes de cette nouvelle venue dans le sport régional. Il nous présente le bandy et la genèse de ce projet dans notre région.
C'est un sport de glace qui se pratique sur normalement une grande glace de la taille d'un terrain de foot. 10 contre 10 plus un gardien. Et la différence avec le hockey, c'est qu'on ne joue pas avec un puck mais une balle.
Pourquoi avoir décidé de créer un club de bandy dans la région Grand Chasseral?
La volonté est venue des filles qui jouent en équipe suisse de bandy. Elles désiraient avoir un club où elles pouvaient s'entraîner durant l'année. C'est beaucoup moins d'investissement que le hockey. Toutes les filles qui ne peuvent pas aller s'entraîner 1, 2, 3 fois par semaine plus les matchs que le week-end, et malheureusement elles arrêtent le hockey. Et puis on voit que les filles ont du plaisir à pouvoir découvrir autre chose et de pouvoir continuer un sport de classe et en équipe.
Pourquoi choisir de faire du bendy plutôt que du hockey en sachant que c'est plus difficile de trouver une équipe, etc.
C'est un sport qui est non contact. Donc les gens qui n'ont pas envie forcément de recevoir des coups, bah, ça peut être une alternative. Actuellement, on joue mixte, le championnat suisse. Donc ça permet aussi de voir d'autres personnes, d'avoir un autre feeling sur la glace. Et puis surtout, c'est une porte d'entrée pour pouvoir participer à des championnats internationaux. On a des filles de Ligue D, de Ligue C qui ont fait des championnats du monde. Et pareil pour les hommes. Il y a des joueurs de 4e ligue, 3e ligue qui ont pu participer à des championnats du monde grâce au bendy.
Frédéric Page, l'entraîneur de la première équipe de bendy dans notre région, répondait à Yannick Catin. Une prévotoise pour devenir la nouvelle championne de Suisse de gymnastique au Zagreb. Flavie Beuchat, 19 ans, fait office de grande favorite de ce concours national qui se déroule ce week-end à Kirchberg. Consciente de son statut, elle ne veut pas se mettre de pression, même si ses objectifs restent élevés. On écoute Flavie Beuchat.
Le premier objectif, c'est d'être sur le podium au classement général. Et après, si possible, de faire les finales par engin le dimanche. Et si possible, de gagner, quoi. Rester sur la même lancée que l'année dernière.
Vous le disiez aussi sur nos ondes, notamment, que vous n'arrêteriez pas tant que vous n'auriez pas décroché ce fameux titre qui vous manque. C'est vraiment dans un coin de votre tête, c'est l'objectif vraiment ultime pour vous d'aller décrocher ce titre.
Ah, c'est le dernier objectif possible, quoi. Du coup, non, j'arrêterai toujours pas avant que ce soit atteint.
Des propos recueillis par Loïc Georgi. Un nouveau visage en équipe de Suisse de football pour le dernier rassemblement en Ligue des Nations. Le sélectionneur Murat Yakin a retenu le jeune Miro Muheim. D'après une annonce faite aujourd'hui, le défenseur de 26 ans joue à Hambourg en deuxième Bundesliga. Parmi la liste des joueurs retenus figure également l'attaquant de Servette Derek Kuteza et le milieu de terrain de Bruges Adron Yachari. L'équipe de Suisse a un besoin urgent de points en Ligue des Nations alors qu'elle défie la Serbie à Zurich et l'Espagne à Tenerife dans une dizaine de jours. Et puis Didier Deschamps, lui, se passe une nouvelle fois des services de son capitaine. Kylian Mbappé ne participera pas au prochain rassemblement de l'équipe de France en Ligue des Nations de football. Il a été dispensé par son sélectionneur selon une annonce faite aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à vous.